Bonsoir à toutes et à tous. Je dirais bonsoir aussi à ceux qui ne sont pas en ligne, mais il n'y a personne. Je suis le seul membre de la conférence. C'est un grand plaisir pour moi, au nom de la faculté jésuite de philosophie et théologie ici à Paris, de vous accueillir pour cette soirée ensemble où nous célébrons la parution de cet important volume. Les Jésuites, Histoire et Dictionnaire. Sous la direction de Pierre Infoy Fabre, présent entre nous ce soir, et aussi Benoît Pierre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Endine, jésuite de la province britannique, qui elle-même aussi marque demain son quatrième centenaire de sa fondation. Mais je suis ici comme professeur au Centre Sèvres et il serait un abus de ma position d'en parler trop. Ce livre ici est important. Il témoigne d'une transformation de la compréhension des jésuites comme figure historique, qui est en plein essor depuis environ une génération. Évidemment, la Compagnie de Jésus est une organisation de clercs au sein de l'Église catholique romaine, même s'il y a aussi des frères religieux qui sont un élément important de ses membres. Et il y a eu toujours des laïcs associés de diverses manières au travail de la Compagnie. Mais c'était une organisation cléricale. Et peut-être c'est tout à fait compréhensible que jusqu'au milieu du siècle XX, son histoire a été presque entièrement par les jésuites eux-mêmes ou par des personnes avec des intérêts ecclésiastiques ou par des personnes dont le souci était de s'opposer aux idéaux religieux ou cléricaux. Parfois des protestants, mais plus souvent, c'est mon impression, et de manière beaucoup plus intéressante, d'autres catholiques qui n'aimaient pas les jésuites. C'était une histoire de l'Église et des polémiques à l'intérieur de l'Église ou contre de l'Église. Mais maintenant, on conçoit l'histoire de la Compagnie d'une manière. J'espère qu'il ne soit pas trop chauviniste si je exprime la conviction que la figure la plus significative au niveau international est sans doute John O'Malley, mort malheureusement très récemment, peut-être trop tôt pour mériter sa propre entrée dans le dictionnaire. John était spécialiste de la culture italienne de la Renaissance, Et c'était précisément au monde des historiens dans les qui a donné à John une inspiration pour réimaginer l'histoire des jésuites. Et moi, j'étais un de ses premiers. L'expérience m'a marqué profondément, même si je suis devenu théologien. C'est John qui a insisté que les jésuites, des agents importants, pas seulement dans les polémiques autour de catholicisme de la Réforme, mais aussi par le développement culturel que représentaient leurs écoles, et leur fonction comme agent d'interculturalité. Grâce à Dieu, ils ont laissé et les textes que les jésuites ont écrits à leur supérieur et tout cela, très importante pour une nouvelle conception de l'histoire des cultures et leurs relations dans le monde. Et les fruits de ce renouveau sont internationaux. On a par exemple ce volume de Cambridge University Press, The Cambridge Encyclopedia of... Ou pour sa part, le chercheur allemand qui a écrit Die Jésuiten, Aufstieg, Niedergang und Neubeginn. Heureusement maintenant disponible en anglais, mais il faut attendre quelque chose. Avec le volume que nous célébrons ce soir, nous avons une contribution française à ce renouvellement. Je laisserai nos intervenants faire ressortir une qualité particulière. Mais on commence avec Dominique Salin, professeur émérite de sa maison, peut-être mon prédécesseur, on parle. Et actuellement résident à Montpellier. Avant d'être enseignant et chercheur, Dominique a été aussi professeur des jeunes en prépa à Ginette. Il a travaillé dans la rédaction de la revue. Ses recherches nous ont apporté des fruits précieux, surtout concernant le corpus associé à lui l'allemand, notamment les écrits de son disciple. Et c'est à lui que je... Et il peut corriger et amplifier ma...
Merci Philippe. Ah oui, il faut que l'ordinateur soit en face. Lorsque Pierre-Antoine m'a fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à intervenir dans cette réunion... J'aurais dû, avant d'accepter, me poser la question, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Tu n'en es pas. Je ne suis pas historien. Je suis un professeur de lettres classiques, spécialisé sur le tard, dans ce qu'il est convenu d'appeler la littérature spirituelle. J'avais été attiré par Henri Brémond, j'ai trouvé mes repères dans les enseignements de Jacques Lebrun et dans les livres de Michel de Certeau, qui s'était déjà éclipsé. Et j'ai vite compris que si Pierre-Antoine m'a invité à intervenir, ce n'est pas tellement en vertu de mes compétences historiennes, mais parce que probablement, surtout dans un lieu comme celui-ci, il fallait tout de même donner la parole à quelqu'un de la tribu, quelqu'un qui puisse dire s'il reconnaît, un peu, beaucoup, passionnément, quelque chose de son... Éthos, de l'éthos jésuite. L'éthos, ce je ne sais quoi qui fait que l'être jésuite n'est pas seulement un objet d'étude, ni non plus une raison sociale, comme l'a écrit Michel de Certeau dans une célèbre lettre à Pierre Nora, mais d'abord une raison d'être, une manière d'être, un modus essendi, un habitus, qui relève de l'affect, au moins autant que de l'élaboration intellectuelle. Alors, à cette question sur l'éthos, je réponds tout de suite, et on n'en parlera plus, bien sûr, dans le miroir que Clio tend aux jésuites, il manque, et il manquera toujours quelque chose, ne serait-ce que le tremblement de l'existence, le tremblement qui peut étreindre quiconque lorsqu'il décide d'engager sa vie. Un jésuite est d'abord quelqu'un qui a fait les exercices spirituels de Saint Ignace, qui a donc fait un choix de vie et qui essaie d'en vivre. Clio n'a jamais fait les exercices spirituels. Le jésuite ne le lui reprochera pas. Mieux, il saura gré à cette muse qui se veut aujourd'hui désenclavée, pour reprendre le mot de Luce Viard, assumé par Pierre-Antoine, il lui saura gré d'attirer son attention sur certains aspects de son passé et de son présent qui ont pu lui échapper. Je ne chercherai donc pas à redresser ce qui peut m'apparaître comme des perspectives discutables, ni à dresser le catalogue d'erreurs factuelles, surtout en ce qui concerne le XXe siècle. Ce pourrait être une tentation. Pierre-Antoine, en effet, a pris le risque d'inviter un vieillard, c'est-à-dire quelqu'un qui, jeune homme, a pris son petit déjeuner pendant 3 ans à Chantilly avec Gaston Fessard, et puis pendant 3 ans à Fourvière avec Henri de Lubac. Plus largement, avec des jésuites qui avaient vécu la Première Guerre mondiale et dont l'activité s'est principalement exercée durant l'entre-deux-guerres. Un jésuite aussi qui a copiné avec Xavier Tillette avant de le vouer aux gémonies. Un jésuite qui, pendant sa formation, s'était tenu à l'écart de Michel de Certeau, à la différence de ses meilleurs amis. Il n'a connu de Certeau que la beauté du mort, c'est-à-dire celle de son écriture, et il s'est bien rattrapé alors. Bref, un jésuite qui est entré dans la compagnie d'avant le concile et qui a été formé par des jésuites préconciliaires, mais dont l'histoire personnelle, avec ses choix, ses sympathies, ses antipathies, ses enthousiasmes, ses déceptions, se font dans l'histoire de ce que ce livre appelle la troisième compagnie. C'est dire qu'en lisant ce livre, surtout dans sa partie contemporaine, ce jésuite s'est plus d'une fois senti pris à partie et aussi mis en face de ses propres tensions ou contradictions. Mais Pierre-Antoine peut se rassurer, je ne vais pas verser ce soir dans l'ego-histoire. Je me limiterai à quelques constats et à quelques questions propres, me semble-t-il, à alimenter le débat entre nous et avec vous, l'assistance. J'ouvre donc tout de suite le compas en évoquant la question récurrente dans ce livre de la périodisation de l'histoire de la compagnie. C'est un des avantages de ce livre. Il ne se contente pas de raconter l'histoire de la compagnie. Il évoque très souvent au passage la manière dont cette histoire a été racontée dans le passé. L'ouvrage écrit à la fois l'histoire et l'histoire de l'histoire. Le point de vue est particulièrement marqué dans le récit initial, le temps des fondations, par Pierre-Antoine, qui, pour le récit proprement dit, renvoie volontiers à John O'Malley, qui vient d'être évoqué, les premiers jésuites. L'ouvrage a été traduit en français en 1999, ou à André Ravier, Ignace de Loyola fonde la Compagnie de Jésus, 1974. Les historiens qui interviennent dans cet ouvrage, qui comprend 2 parties, une partie récit sur 300 pages à peu près, 400 pages, et puis une partie dictionnaire un peu plus longue, les historiens estiment qu'il y a eu 3 compagnies. La première couvre à peu près le XVIe siècle, le temps des fondations. La deuxième compagnie commence avec le XVIIe siècle, à la vitesse de croisière fixée par le long généralat du père Acquaviva à la charnière du XVIe et du XVIIe. Quand s'achève-t-elle, cette seconde compagnie? Quand commence la troisième compagnie? Les historiens tendent aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, à adopter les conclusions des travaux de Pierre-Antoine et de Patrick Goujon. La troisième compagnie ne commence pas en 1814, avec le rétablissement de la compagnie orchestrée par le père Rotan à partir de 1829. Les historiens estiment que 1814 scande une continuité plutôt qu'une rupture, et que la troisième compagnie ne commencera qu'au milieu du XXe siècle, avec le concile, disent-ils. Tous ne sont pas d'accord entre eux. Je voudrais apporter, à l'appui de la thèse de la continuité, le témoignage de la littérature spirituelle, ce que je connais le moins mal. Après la Révolution française, la vie spirituelle des jésuites du XIXe siècle s'est nourrie des mêmes livres qu'au XVIIIe siècle, qui lui-même avait réédité ou prolongé les grands auteurs du XVIIe siècle. Dans la compagnie et hors de la compagnie, Philippe Martin le remarque à juste titre dans sa remarquable entrée intitulée « Livre », je le cite, « les auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles demeurent des références tout au long du XIXe. » Il cite Baudran, Corret, Grasset, Croiset, Groux, on peut ajouter François Neveu, Jean-Baptiste Saint-Jure, Jean-Joseph Surin lui-même, et la doctrine spirituelle du père Louis l'Allemand était toujours considérée, comme elle le sera jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, comme l'indépassable somme de spiritualité jésuite dont la lecture était réservée au troisième an, c'est-à-dire à la fin de la formation du jésuite. Certes, après le rétablissement de la compagnie, le père Rotan avait appelé la spiritualité jésuite à se recentrer sur les exercices, dont il avait lui-même procuré une édition qui se voulait la plus fidèle possible au dessein de saint Ignace, mais dans l'ensemble, la spiritualité des jésuites du XIXe siècle, notamment leur conception des exercices et la manière de les donner, ont prolongé ce qui s'est amorcé au XVIIe siècle, c'est-à-dire une spiritualité privilégiant de plus en plus ce que nous appelons aujourd'hui la psychologie, c'est-à-dire l'analyse des passions, la traque des vices, la culture des vertus. Une moralisation, si l'on veut, de la vie spirituelle, comme l'a souligné Patrick Goujon, placée sous le signe, disons, d'un stoïcisme chrétien. Les exercices spirituels ne sont plus considérés d'abord comme la chambre d'écho permettant aux motions spirituelles, aux motions intérieures, comme dit saint Ignace, de se développer dans toute leur ampleur afin de permettre une élection, un choix de vie qui soit tout autant la décision du sujet que celle de l'Esprit-Saint en lui. Les exercices spirituels sont de plus en plus terrain de chasse pour la traque aux vices qui m'habitent, surtout pendant la première semaine, puis pendant les deux semaines suivantes, le jardin, j'avais écrit dans un premier jet, le potager, où, à la lumière de la vie du Christ longuement contemplée, je vais m'entraîner à cultiver les vertus que le Christ nous a enseignées. L'élection, quand il y en a une, ce qui n'est pas toujours le cas dans les exercices du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle imprimés, l'élection se borne à identifier la vertu qui correspond le mieux en positif au vice principal que j'ai identifié en moi. Je simplifie, bien sûr, mais l'histoire est souvent obligée de schématiser. Moralisation des exercices, donc, considérée comme une école de perfection ou une école de prière, une école en tout cas de formation de la volonté, voire du caractère, dans une perspective stoïcienne. Cette conception de la vie spirituelle, conception volontariste, ascétique, véhiculée notamment par la lecture, la méditation de l'exercice de perfection et des vertus chrétiennes, manuel publié par le jésuite espagnol Alonso Rodriguez en 1609, manuel obligatoire dans tous les noviciats du monde jusqu'à la veille de Vatican II, j'ai été obligé de subir Rodriguez, manuel qui connut 300 éditions et qui fut traduit en 23 langues, cette conception volontariste de la vie spirituelle sera majoritaire dans la spiritualité et l'apostolat des jésuites jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans ma jeunesse religieuse, j'ai fréquenté suffisamment d'anciens aumôniers de collège, anciens aumôniers scouts, assez de prédicateurs en tout genre pour tout public, pour assurer que cette spiritualité, j'allais dire pour officier de cavalerie, sans aucun mépris pour le corps militaire, cette spiritualité a constitué un courant important dans l'éthos jésuite, en gros, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais, du XVIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la spiritualité jésuite n'a pas été dominée par ce seul courant, moraliste, volontariste, stoïcien, semi-pélagien, pour parler comme les théologiens, courant stigmatisé par Henri Brémond dans son livre à succès et qui a très durablement marqué les esprits. Un second courant, apparemment contraire au premier, a couru, mais presque souterrainement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui. Brémond en a reconnu l'existence et l'a valorisé. Un courant mystique, dit-il, qui se reconnaît en François de Sales et en Fénelon. 80 ans séparent François de Sales et Fénelon. Depuis le XVIIe siècle, remarque Brémond, nombre de jésuites se sont reconnus dans la spiritualité salésienne et fénelonienne. De l'abandon, l'abandonnement, comme disait François de Sales. L'abandon a connu une fortune immense dans la spiritualité moderne. Face au jansénisme, l'abandon s'est peu à peu imposé comme une puissante alternative au cours des quatre derniers siècles. La condamnation du quiétisme à la fin du XVIIe siècle, le quiétisme, ce monstre théologique forgé par le Saint-Office et qui ne correspondait ni à la doctrine ni à la pratique de Fénelon, ni même de Madame Guyon, le quiétisme n'a pas réussi, la condamnation du quiétisme n'a pas réussi à faire barrage à la spiritualité de l'abandon. Au contraire, comme l'écrit Brémond, nombre de jésuites dans leur direction spirituelle, telle qu'on peut en juger par ce qui nous reste des correspondances, auront été salésiens ou fénéloniens. Il n'est pas indifférent qu'au milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, en 1861, un jésuite, le directeur de l'apostolat de la prière, le père Ramière, ait publié le célèbre traité « L'abandon à la providence divine », attribué alors et pour longtemps à Jean-Pierre de Caussade, au jésuite Jean-Pierre de Caussade. Au XIXe siècle, donc, nombre de jésuites se reconnaissaient dans la spiritualité de l'abandon qui était orchestrée à la même époque par la vedette des auteurs spirituels du XIXe siècle, Mgr Charles de Ségur, le fils de la comtesse. À cette spiritualité de l'abandon s'est conjuguée chez les jésuites d'abord, évidemment, au XIXe siècle, la dévotion au Sacré-Cœur. Face au jansénisme revêche, mais persistant, abandon et Sacré-Cœur seront dans la société chrétienne les lubrifiants de la vie spirituelle. La spiritualité de l'abandon, associée au thème de l'enfance, s'épanouira chez Thérèse de Lisieux et Charles de Foucault, figure inspiratrice dominante du XXe siècle. Volontarisme d'une part, spiritualité de l'abandon d'autre part, de Louis l'Allemand et de sa doctrine de la docilité à la providence divine, et François de Sales prônant l'abandonnement jusqu'à Charles de Foucault, ce grand volontariste, et Thérèse de Lisieux, la continuité qui se manifeste dans la spiritualité catholique, continuité dans la tension entre deux courants antithétiques, cette continuité se manifeste aussi dans la spiritualité jésuite. C'est pourquoi je souscris à la thèse qui situe la naissance d'une troisième compagnie au milieu du XXe siècle, épiphanie qui coïncide avec le Concile Vatican II, immédiatement suivi de l'élection de Pedro Arrupe comme préposé général de la troisième compagnie. Naissance d'une compagnie assez difficile à cerner, parce la patate est encore très chaude, très différente en tout cas de la compagnie qui avait traversé la guerre de 14-18. Car c'est la guerre de 14-18 qui marque la fin du XIXe siècle. L'entre-deux-guerres ouvre une nouvelle époque. Si je voulais être précis, je soulignerais que cette nouvelle compagnie n'est pas sortie du concile, comme Athéna était sortie de la tête de Zeus, comme le concile d'ailleurs. Elle avait été préparée tout au long de l'entre-deux-guerres par une effervescence théologique et spirituelle considérable que Philippe Cheneau retrace excellemment. Se détachent les noms de Rousselot, de Lubac, de Fessard et d'autres, Orson Balthazar, etc. Pour ce qui est de la spiritualité, je me bornerai à souligner le retour aux sources ignatiennes rendu possible par le travail des historiens espagnols dès la fin du XIXe siècle. Dans la nouvelle compagnie française, ce retour aux sources sera monnayé en 1926 par le petit livre explosif, au point que les provinciaux l'ont retiré très vite du commerce, du père Henri Bernard, que j'ai connu étudiant sous le nom d'Henri Bernard Maître, et qui s'était ensuite consacré à l'histoire des missions chinoises. Son livre s'appelait « Essai historique sur les exercices spirituels de Saint Ignace ». Ça décoiffait. Puis, à partir de 1954, c'est Maurice Giuliani et ses collaborateurs de la revue Christus, notamment Michel de Certeau et François Roustan, plus tard, Joseph Thomas, Jean-Claude Dautel et d'autres, Dominique Bertrand, qui ne sont pas toujours nommés dans cet ouvrage, à commencer, je le regrette, par Édouard Pousset, qui a été beaucoup plus créatif et influent dans la pratique des exercices spirituels, je crois, qu'Adrien de Moustier. Mais c'est un point de vue. Puisqu'il faut bien formuler quelques regrets, sous peine de passer pour un vendu, je regrette que, pour le renouveau de la spiritualité ignatienne, je ne sois pas présenté l'ouvrage capital de Gaston Fessard, « La dialectique des exercices spirituels » paru en 1956, en montrant que l'élection est le cœur et la raison d'être des exercices spirituels, que ceux-ci sont conçus pour permettre à quelqu'un de poser un acte libre, aussi libre que possible, par rapport à ses passions, à son intérêt propre. Fessard propose une petite phénoménologie, non de l'esprit, mais de la liberté, qui permet de justifier philosophiquement, c'est très important, la spiritualité de Saint Ignace. C'est une spiritualité de la spiritualité de Saint Ignace. Le jésuite devrait être un homme libre. Il fallait le rappeler à l'époque, au moment où le magistère de Jean-Paul Sartre régnait sur la pensée française, époque aussi où, pour faire carrière à l'université, il fallait avoir sa carte du parti ou être compagnon de route. Une spiritualité de la liberté. Je crois que Pedro Arrupe, supérieur général de l'après-concile, n'aurait pas récusé cette manière de caractériser très brièvement la spiritualité jésuite. La liberté peut faire peur. Je crois que c'est ce qui s'est passé chez les jésuites qui se sont opposés à Pedro Arrupe, parfois tacitement, le plus souvent en France, parfois explicitement comme en Espagne, avec menace de dissidence. Nous pourrons y revenir dans le débat. Bien sûr, j'aurai quelques autres regrets à formuler. La conception binaire de l'ouvrage suppose que le liant du récit, qui occupe le premier tiers de l'ouvrage, supplée à l'éclatement de l'objet dans la multiplicité des entrées du dictionnaire. Mais la formule ne peut pas empêcher que quelques pépites échappent à l'orpailleur historien. Par ailleurs, certaines entrées semblent mal proportionnées. Par exemple, Federico Faura, 1840-1891, dont tout le monde ici connaît le génie météorologiste qui s'est déployé aux Philippines au XIXe siècle, bénéficie de plus de 7 colonnes, alors que Michel de Certeau n'a droit qu'à 2 colonnes. La lacune est particulièrement regrettable pour Certeau. Le nom de Certeau apparaît constamment dans le récit. Il apparaît 30 fois, d'après l'index. Mais ce qui fait l'unité de sa pensée, et ce qui fait l'unité de sa pensée et de son être jésuite n'est évoqué nulle part. Dans la consigne, dans la notice qu'il lui consacre, Pierre-Antoine s'en tient modestement à deux colonnes pour faire comme les copains, pour pas donner l'impression d'avoir un traitement de faveur. Mais on sait qu'il aurait pu être beaucoup plus prolixe et on regrette qu'il ne l'ait pas été. Certeau est avec Teilhard, l'intellectuel jésuite du XXe siècle, le plus lu dans toutes les universités du monde, plus que de Lubac, plus que Rahner. Et ça, les jésuites français ne semblent pas le réaliser. Je réserve d'autres remarques pour le débat. Je termine en félicitant les concepteurs et les contributeurs de l'ouvrage et surtout le maître d'œuvre final, qui a pris un chantier, il l'expliquera, je pense, qu'il n'avait pas entamé. C'est très difficile pour un architecte de reprendre un chantier qu'il n'a pas conçu. Ils ont réussi à montrer que ce corps social, qu'on appelle les jésuites, et qu'on imagine volontiers, pas vous, mais le grand public, selon des schémas militaires et rigides, ce corps a été en réalité un corps éminemment plastique, ici ou aujourd'hui ceci, là et demain son contraire, parfois. Je vous remercie de votre attention et on donne la parole à Denis. Et oui, l'ordinateur aussi.
Merci beaucoup, Dominique. On continue avec Denis Pelletier. Vous avez la chaire d'histoire et sociologie du catholicisme contemporain à l'école pratique des hautes études. Et à différents moments, vous avez été directeur de l'école doctorale et président de cette école pratique, sans doute entre autres fonctions distinguées, trop nombreuses. Vos recherches portent sur l'histoire du catholicisme contemporain, l'histoire du rapport entre religion et société au XXe siècle. Et c'est de cette perspective que j'imagine que vous commenterez ce nouvel ouvrage. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci à Pierre-Antoine de me donner l'occasion de parler de ce dictionnaire. Je ne sais pas si je le remercie complètement, car je trouve que c'est compliqué toujours de parler d'un dictionnaire. C'est compliqué de parler d'un dictionnaire pour deux raisons. D'abord, les dictionnaires sont des objets très précieux, très utiles, mais qu'on ne lit pas. C'est des objets qui se révèlent précieux à l'usage et pas dans un premier temps immédiat. Et donc, il faut du temps pour qu'un dictionnaire s'impose comme un objet véritablement utile, précieux et que l'on utilise. On ne raconte pas un dictionnaire. On ne fait pas le récit d'un dictionnaire. Et donc, c'est une première difficulté. L'autre difficulté, c'est, Pierre-Antoine me pardonnera, que les dictionnaires sont des objets, comment le dire, d'épistémologie molle. L'épistémologie molle, c'est-à-dire que l'objectif d'un dictionnaire, au départ, il y a toujours une dimension encyclopédique dans un dictionnaire. Il faut tout dire. Et puis ensuite, il y a le problème du format, ou le problème, c'est le problème du géographe chez Borès. On ne peut pas tout dire, il faut bien s'arrêter à un moment. Et donc, le vrai questionnement, quand on construit un dictionnaire, il devient très très vite un questionnement sur les marges du dictionnaire. Ce qu'on va faire rentrer, est-ce que finalement on va faire rentrer, est-ce que finalement on ne va pas faire rentrer. Et ce qui fonctionne, c'est quelque chose qui est peut-être pour partie inconscient, j'y reviendrai, mais c'est aussi ça, c'est le nez, c'est le pif, c'est voilà, ça on va le faire rentrer, ça on ne va pas le faire rentrer. Et je pense que dans cette carence épistémologique du modèle dictionnaire, il y a quelque chose sur lequel on devrait réfléchir. Ça conduit souvent, ça conduit quelquefois à avoir envie de faire la critique d'un dictionnaire à partir de ce qui manque, ce qui me semble la, comment dire, aussi une critique molle, c'est-à-dire une critique paresseuse. Il manque toujours des choses, donc on ne peut pas construire la critique d'un dictionnaire à partir de ce qui n'y est pas. Et donc voilà ce qu'on a surtout envie de faire quand on est en face d'un dictionnaire, C'est d'abord de dire que ce dictionnaire est un très bel objet. C'est un bel objet, je ne l'ai pas apporté parce que j'ai pensé qu'il serait sur la table, et de fait il l'est. C'est un bel objet, c'est un objet élégant, c'est un objet agréable. Je trouve que la collection Bouquin est une collection extrêmement sympathique. Elle a un côté pléiade du pauvre, pléiade pour tous. Et puis c'est, à la différence de la pléiade, le papier n'est pas très beau. Ils ont fait des progrès par rapport au premier. La couverture a fait des progrès, ils ont abandonné ce violet qui était très moche et ils ont un blanc qui est assez élégant. Et c'est des objets affectueux, c'est-à-dire c'est des objets qui, quand on les utilise, s'adaptent, se cornent, se tordent, se font à la main. Et je trouve que là, il y a quelque chose... Moi, je suis content qu'un dictionnaire sur les jésuites paraisse dans cette collection qui a une forme de dimension de modestie que je trouve précieuse au bout du compte. Ensuite, on a envie de poser des... Une fois qu'on a dit ça, et je vais rentrer dans le détail, un tout petit peu dans le détail, on a envie surtout de poser des questions aux gens qui ont fait le dictionnaire, de leur poser des questions sur le pourquoi, sur le comment, sur comment il a fait. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir comment un ouvrage comme ça a été fait. Ça permet d'aborder un certain nombre de points, j'en citerai trois. Il y a d'abord ce choix fort qui consiste à dire que le dictionnaire en tant que tel occupe les pages 424 à 1126, soit environ 700 pages, sur 1328, à peine un peu plus que la moitié du volume. Le reste est occupé par une forte partie historique, collective, très intéressante, pour les 400 premières pages, et ensuite par des annexes, il y en a toujours, et par des textes produits par la Compagnie de Jésus, par la reproduction d'un certain nombre de textes. Et on a envie de demander comment ce choix a été fait, d'où vient-il, après tout, par comparaison. Il y a un dictionnaire des jésuites que tous les historiens connaissent, qui est le volume 1 du dictionnaire du monde religieux de la France contemporaine, beaucoup plus réduit, paru chez Beauchesne, sous la direction de Paul Duclos en 1985, qui est le volume qui est un peu... essuyer les plâtres de la collection. Il y a très peu de parties historiques dedans. Il y a, pour en rester dans cette collection, la manière dont Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme ont, voici quelques années, c'était en 2017, produit un dictionnaire intitulé « Le monde du catholicisme » dans lequel il n'y a que des entrées de dictionnaire. Et toujours pour rester dans la collection, il y a enfin un troisième exemple qui me vient à l'esprit, c'est le très beau dictionnaire de Ali Amir Moezi sur le Coran, le dictionnaire du Coran paru dans la collection Bouquin en 2007, hein, c'est pas ces derniers trois volumes par Yosserf, dans lequel il y a 35 pages qui sont consacrées à l'histoire du Coran, et ensuite tout le dictionnaire est centré sur des entrées de type notice. Là, vous avez fait un choix qui est un choix particulier, que moi je trouve intéressant parce qu'il établit comme ça une sorte de circulation dans la lecture. C'est-à-dire qu'on peut circuler du récit vers les notices, des notices vers le récit. Et là, ça fabrique une forme d'économie interne que je trouve assez intéressante dans ces objets, encore une fois, un peu compliqués que sont les dictionnaires. Deuxième remarque, qui peut être aussi une question, on est en face d'un dictionnaire de moderniste. On est en face d'un dictionnaire de modernistes. J'ai commencé par faire le décompte. J'ai fait pas mal de décomptes pour préparer cette intervention. J'ai commencé par faire le décompte des entrées bio, siècle par siècle. Alors c'est approximatif, hein, parce que j'ai pris en général la date d'entrée dans la compagnie. 16e siècle, 94. 17e siècle, 87. 16e siècle, 60 ans. 94, 17e siècle, 87. 18e siècle 38, 19e siècle 35, 20e siècle 44. Alors qu'il déborde sur le 21e, mais avec cette restriction que les vivants ou les morts trop récents n'ont pas été inclus dans le dictionnaire. On a donc un choix très clair, qui est un choix de moderniste, et dans lequel, au fond, l'histoire moderne, proprement moderne de la Compagnie de Jésus est éventuellement confrontée à une reprise du nombre au moment du XXe siècle, un petit peu plus, donc 44, alors que seulement 38, 35 au XVIIIe et au XIXe siècle. Moi, ça m'intéresse ce choix pour deux raisons. D'une part, parce que je vois, et nous sommes un certain nombre, on est quelques historiens dans la salle, nous voyons depuis quelques années maintenant, les historiens d'histoire moderne s'intéressaient à l'histoire contemporaine, notamment, particulièrement dans le domaine religieux. Et Pierre-Antoine, tu en fais partie, mais on travaille avec Jean-Pascal Guay, on travaille avec Silvio De Franceschi. On a cet intérêt de l'histoire moderne avec un apport spécifique. Et voilà, il y a quelque chose qui, moi, me semble intéressant dans ce rapport des modernes à la partie propre des historiens modernistes, à la partie proprement contemporaine du dictionnaire. Et puis, il y a une autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'au fond, il me semble que dans l'histoire de la Compagnie de Jésus, la confrontation entre le temps des origines et l'immédiate actualité est un problème qui est posé de façon permanente. Là, l'identité collective de la Compagnie de Jésus se construit en grande partie sur une confrontation entre le temps présent et le temps des origines. Et donc, cette manière de faire, de ce point de vue-là, m'a paru intéressante. Et si tu as deux ou trois choses à en dire, je serais intéressé de les entendre. Le troisième élément, mais là je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long, c'est l'équilibre qui est toujours délicat à établir à l'intérieur d'un dictionnaire entre les entrées biographiques, dont j'ai déjà parlé. Les entrées, c'est toujours les mêmes. Vous avez des entrées biographiques. Vous avez des entrées de lieux, lieux au sens large du terme, des lieux proprement dits, Rome, qui est un lieu, des lieux intellectuels, des revues, des groupes, des lieux intellectuels aussi, des ouvrages. Hein. Donc vous avez des entrées biographiques, vous avez des entrées par lieu, vous avez des entrées par moment. Hein, la suppression et le rétablissement de la compagnie, la querelle des rites, donc vous avez des entrées par moment, vous avez des entrées institutionnelles, hein, la congrégation générale, la curie généraliste, tout ce que vous avez des entrées proprement institutionnelles, et puis vous avez des entrées thématiques. Et ces cinq ensemble, il me semble qu'on construit un dictionnaire à partir de ce type d'ensemble. Hein. Les personnes, les lieux, les institutions, les moments et j'ai oublié les thématiques. On a comme ça quelque chose qui se construit. Et c'est toujours mystérieux pour moi de voir un dictionnaire une fois construit. Quelle est la part de ce qui vient en cours de route? Quelle est la part de comment est-ce que ça a été conçu? Comment est-ce que ça se construit en cours de route? Je pense que les dictionnaires se construisent aussi pour partie à l'épreuve de la rédaction des notices. Mais voilà, ça, les questions sur le pourquoi sont très intéressantes. Pour ne pas vous laisser croire ou vous faire croire que je n'ai pas ouvert le livre ou que je me suis contenté de... C'est pas vrai, j'y ai passé un bon bout de temps. Je vais essayer d'aller plus loin et de construire une petite narration à l'intérieur de ce livre. Je me suis demandé comment on pouvait faire pour construire une narration en fait deux à l'intérieur du dictionnaire. Et j'ai choisi de le faire à partir des renvois aux articles qui apparaissent à la fin de chaque notice. C'est une coutume dans les dictionnaires, chaque notice est suivie d'une petite bibliographie et d'un certain nombre de renvois à d'autres articles. C'est une pratique de ça construit une pratique de circulation à l'intérieur des dictionnaires, une pratique de circulation qui est absolument incontournable, on trouve ça toujours dans tous les bons dictionnaires. C'est le résultat souvent d'une demande aux auteurs, des notices, ensuite tempérée, complétée par l'intervention des éditeurs scientifiques. C'est un compromis donc entre une intuition et une première lecture de chaque notice, et on a comme ça un ensemble de choses qui se construisent un peu de façon bricolée et de manière collective et qui pour moi fonctionne comme une sorte d'inconscient du dictionnaire. C'est-à-dire que au fond vous avez là, parce que c'est fait notice par notice, parce qu'en même temps ça crée des liens entre les différentes notices, une forme de... On pourrait, si on voulait, chercher une épistémologie du dictionnaire. Je pense qu'il faudrait la travailler à partir de ces systèmes de renvoi. J'ai pris deux notices au hasard, mais le hasard est bizarre. Le hasard fait bien les choses. La première, c'était Gaston Fessard, dont tout le monde parle ce soir. Et dont je regrette moi aussi qu'elle n'ait pas été plus longue. Gaston Fessard, pourquoi est-ce que j'ai pris Gaston Fessard? Pour une raison très personnelle. Gaston Fessard est un personnage que j'ai longtemps détesté. Détesté parce que je croisais ses textes à travers l'histoire des chrétiens progressistes, à travers l'histoire du christianisme progressiste, et qu'il est absolument odieux avec eux. Et en bon historien de gauche, je le trouvais détestablement réactionnaire. Et puis, à un moment, les choses ont changé, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai cessé de le détester et je me suis décidé à ne rien y comprendre. Et Fessard est devenu le théologien auquel je ne... et le philosophe, peut-être bien plus philosophe que théologien, auquel je ne comprenais rien. Et puis finalement, les choses ont encore changé parce que j'ai une étudiante, philosophe, roumaine, Anna Petrac, qui a fait une thèse absolument magnifique sur Gaston Fessard. La thèse est parue aux éditions du Cerf. Elle n'est pas citée par l'auteur de la notice sur Fessard. Je le regrette. Elle est parue sous un titre que je trouve très beau, « Gaston Fessard, un chrétien de rite dialectique ». De rite dialectique. Et voilà. Alors, je vous propose un circuit dans le, donc voilà, je vous propose un circuit dans les titres de notices auxquels renvoie Fessard. Donc vous avez un niveau 1 qui est la notice Gaston Fessard. Ça va aller très vite, vous allez voir. Vous avez ensuite un niveau 2, les 8 renvois de la notice Gaston Fessard. Les 8 notices auxquelles renvoie Gaston Fessard. Je vous les cite parce qu'il y en a 8. Je vous rassure, je ne vous les citerai pas toutes quand ça va être un peu plus nombreux. Les 8 notices sont pas inattendues. Antisémitisme, Chaillet, Fessard, c'est l'engagement résistant de Fessard. Antisémitisme, Chaillet, collège, au pluriel, Lubac, marxisme, obéissance, je rappelle les difficultés de Fessard avec les autorités de la Compagnie de Jésus à partir des années 30, obéissance, revue au pluriel et vœux. Et donc on a 8 renvois. Et à partir de ça, on peut fabriquer un petit itinéraire de troisième niveau en faisant la liste des notices auxquelles renvoient les 8 notices auxquelles a renvoyé la notice Gaston Fessard. Et là, on voit... quand on cherche ces notices auxquelles renvoient ces 8 notices de niveau 2, on en trouve 104, soit 13 fois plus, ce qui donne une idée de la générosité des renvois à l'intérieur des notices, au passage. Je ne vais pas vous donner les titres, toutes les catégories dont j'ai parlé tout à l'heure y sont, je ne vais pas vous citer 104 notices, mais je vais vous citer simplement celles qui sont signalées à plusieurs reprises, parce que ça c'est intéressant, celles qui reviennent les plus souvent. Alors, 18 entrées ont 2 occurrences, antisémitisme, athéisme, Aroupé, Calvez, Chaillet, Congrégation Générale, Constitution, Ecclésiologie, Éducation Jésuite, Exercice Spirituel, Fessard, c'est normal, c'est des retours, et Fontoinon. 5 notices ont 3 occurrences, humanisme, obéissance, papauté, Lubac et revue au pluriel. Et 2 notices ont 4 occurrences, recteur et collège. Et donc ce qu'on voit, c'est le poids du collectif. Sur ces 18 et 5, 23 et 2, 25 entrées qui ont 2, 3 ou 4 occurrences, 7 seulement sont des entrées biographiques. 7, excusez-moi, je vous dis une bêtise, sur les 5 entrées qui ont 3 occurrences et les 2 entrées qui ont 2 occurrences, donc les 7 plus importantes, humanisme, obéissance, papauté, Lubac, revue, recteur, collège, vous n'avez qu'une seule notice biographique, Lubac. Les 6 autres sont des notices collectives. Alors que, si on prend les 107 notices, on a 37 notices biographiques individuelles. On passe d'un tiers à un septième. Et je trouve que c'est très intéressant. Il y a un effet logique, hein, il y a un effet mécanique en quelque sorte. Mais je trouve que c'est aussi très intéressant quand on pense à, par exemple, au livre de Jean Lacouture, au livre déjà ancien de Jean Lacouture, Les Jésuites, une multibiographie. Ce passage, comme ça, de la biographie, les Jésuites, on pense à des individus, mais on sait bien qu'il y a quelque chose que l'institution pèse très lourd. Bon, ça va pas très très loin, alors j'ai pris une deuxième entrée. Parce que j'aurais pu essayer d'aller à un quatrième niveau, mais 107 fois 14, vous imaginez le foutoir. Alors j'ai essayé de trouver une deuxième notice, et j'ai choisi Alberto Hurtado, 1901-1952, je rappelle ces dates. Parce que, alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Alberto Hurtado? Pour une première raison, qui est que pour un certain nombre d'entre nous, Alberto Hurtado était un quasi inconnu jusqu'à la période récente où il a été béatifié. C'est quelqu'un dont on ne parlait pas énormément. Pour une deuxième raison, là je vais me vanter un peu, il se trouve que moi je le connaissais. Je le connaissais un peu par hasard. Hurtado a été un interlocuteur du père Lebret, auquel j'ai consacré ma thèse, lorsque le père Lebret s'est rendu pour la première fois de sa vie en Amérique latine. Et l'Amérique latine a beaucoup compté ensuite. Il va en 1947 au Brésil, il fait un petit séjour au Chili, il rencontre Alberto Hurtado, le courant passe entre les deux hommes. Hurtado viendra à la Tourette à Lyon en 1948, et donc il y a un lien entre les deux hommes, et il y a une vraie réflexion, d'ailleurs c'est dans la notice, sur le catholicisme social, sur l'économie, sur un certain nombre de choses chez Hurtado. La notice est un peu courte, mais c'est bien qu'elle y soit, de toute manière. Donc c'était la deuxième raison, c'était pour me vanter que j'en ai parlé. Il y a une troisième raison qui m'intéressait bien, qui était très pratique. La notice Hurtado, il n'y a que deux renvois, donc le travail pourrait aller plus vite. Il y a deux renvois. Alors, les deux renvois, ça fait un niveau. Donc, niveau 1, Hurtado. Niveau 2, deux renvois. Revue, au pluriel, et sainteté. Donc, je me dis, ça va être bien, ça va être simple. Et je travaille à partir de revue et sainteté. Et je passe au troisième niveau, qui peut être raisonnable. Et de fait, revue renvoie à 11 entrées, 9 individus. Je ne vais pas vous donner le détail, mais 9 individus. Les revues sont des affaires d'hommes, d'individus et d'hommes, 9 hommes évidemment. Les revues jésuites sont des affaires d'hommes, 9 individus et 2 rubriques générales, livres au pluriel et littérature. Bon, 9 revues, les revues donc renvoient à 11 entrées. Sainteté renvoie à 17 entrées. Et cette fois, très peu d'individus. Jean Bolland et Ignace de Loyola, qu'il est difficile d'éviter quand on parle des jésuites. Surtout du collectif, la sainteté jésuite est une affaire collective. Art visuel, collège, controverse, science, évangélisation, exercice spirituel, hagiographie, littérature, molinisme, papauté, querelle des rites, revue, suppression et restauration de la revue, théâtre, théologie jésuite. Total, donc, 28 entrées. Et avec 28 entrées, on peut tenter un niveau 4 et faire le tour de ces 28 entrées et des renvois de ces 28 entrées. Et on arrive à comptabiliser 415 entrées supplémentaires. Une nouvelle fois, on a multiplié par 14. C'est assez régulier. Donc, le dictionnaire est construit de manière cohérente. Sur ces 415 entrées, il y a 130 biographies, soit à peu près un tiers. Là aussi, on retrouve une bonne cohérence par rapport au modèle précédent. Je ne vais pas vous dire non plus les 414. Je ne vais pas non plus vous énoncer les 17 entrées, les 17 occurrences, les 17 doubles occurrences, ni les 21 triples occurrences, ni même les 14 quadruples occurrences. Je vais m'intéresser au plus important. Le plus important, c'est à partir de 6 occurrences. Alors, 6 occurrences, vous avez 4 cas. Sainteté, accommodation et accommodement, théâtre, langue et linguistique. 7 occurrences, vous en avez 3. Ecclésiologie, on retrouve un des thèmes, des mots que j'ai déjà prononcés. Ecclésiologie, évangélisation, morale. 8 occurrences, une seule notice, prédication. Prédication est citée 8 fois. 9 occurrences, 2 notices, collège et suppression et restauration. 10 occurrences, 4 notices, papauté, tout à fait étonnant, exercice spirituel, puisqu'exercice spirituel apparaît, Ignace de Loyola apparaît aussi, en général ils viennent l'un après l'autre. C'est-à-dire que toute notice qui cite l'un cite l'autre, et obéissance, que je trouve intéressant. Et enfin, exception exceptionnelle, 2 notices sont citées 14 fois. Revue, au pluriel, et théologie jésuite. D'où l'on tire cette conclusion importante, et qui vous étonnera tous, les jésuites font de la théologie, et ils publient des revues. Mais pour parler plus sérieusement, un seul individu, Ignace de Loyola, on retrouve ce poids considérable du collectif à l'intérieur du système de référenciation qui permet de penser la compagnie de Jésus. Il y a peu de lieux, si vous avez il y a assez peu de lieux dans les dernières notices les plus citées. Revues, collèges, théâtres, papotés, mais peu de lieux. Beaucoup de thématiques, beaucoup de thèmes, davantage de thèmes en fait. Ecclésiologie, évangélisation, morale, prédication, obéissance. Il y a un poids de la thématique, des thématiques et des thématiques en débat qui est tout à fait important. Je ne vais pas aller plus loin, c'est-à-dire que je vais éviter le cinquième niveau. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? Qu'est-ce que moi je retiens de tout ça? Je retiens d'abord que, encore une fois, la compagnie de Jésus, ce sont certes des jésuites, mais c'est d'abord et avant tout un groupe, et j'en reviens à la notion de multibiographie dont je parlais tout à l'heure. Toute cette analyse est bien modeste, hein. La compagnie de Jésus, c'est un collectif, c'est une institution. C'est aussi une culture, poids des thématiques dans ce qui est le plus cité, c'est aussi une culture qui est en débat. Et pour en revenir au tout début de mon intervention, c'est une culture dans laquelle le débat porte très largement sur la confrontation entre le monde actuel et le monde des origines et le moment des origines. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, sinon peut-être une autre chose. C'est ce que j'ai voulu faire, c'était un moyen de vous faire entendre un tout petit peu, à travers des noms, le contenu même du dictionnaire et la richesse du dictionnaire. Je pense, quant à moi, que je l'utiliserai souvent. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.
Bien, merci, merci beaucoup à tous les deux pour ces interventions, et évidemment merci à Étienne Grieux, le président du centre, et à Philippe Endine et à toute l'équipe du centre qui a organisé cette séance, et merci aussi évidemment aux auditeurs, à ceux qui sont présents, alors ceux qui ne sont pas, qui auraient dû être en ligne, qui ne sont pas en ligne, mais en particulier parmi ceux qui sont présents, les auteurs, puisqu'il y en a plusieurs. Alors peut-être que je commencerai par là. Je vais essayer d'être bref, hein, pour qu'on puisse tous les trois finalement, ou tous les quatre, revenir sur cet objet à partir des questions que vous poserez. Mais je voudrais revenir sur trois temps. Le premier temps, ce serait justement en référence aux auteurs, revenir sur la conception du livre, hein, telle qu'elle a été évoquée depuis tout à l'heure. Puis ensuite, peut-être amorcer au moins un certain nombre de réponses aux questions, aux suggestions qui ont été faites, aussi bien par Denis Pelletier que par Dominique Salin. Et puis peut-être pour finir, puisqu'il n'est pas juste, et tu as raison, Denis, de construire la critique d'un dictionnaire par ses manques. Mais moi-même, étant l'un des contributeurs de ce dictionnaire, je peux moi-même évoquer les manques que j'y vois depuis que ce dictionnaire est fini. Alors je ne vous dirai pas tous les manques que j'y vois, parce que ça nous prendrait toute la nuit, mais j'en dirais au moins deux, à mon sens, importants. Alors, concernant la conception, je voulais rendre hommage aux auteurs, à ceux qui sont là et à ceux qui ne sont pas là, et à leur patience, et à leur bienveillance surtout, puisque, comme vous le savez peut-être, c'est un dictionnaire qui a eu deux vies d'une certaine façon. Comme cela a été rappelé, les fondations en ont été posées par Benoît Pierre, un historien moderniste, un spécialiste des Capucins en particulier, dans la fin des années 2000, entre 2008 et 2009, et cette première vie du dictionnaire s'est interrompue en 2012-2013 et a ouvert une période de latence, disons, qui a été close lorsque j'ai moi-même repris le dossier à la fin 2018. Alors, je voulais rendre hommage aux auteurs, puisque fin 2012 et fin 2018, les auteurs se sont inquiétés, les références bibliographiques n'ont cessé de s'accumuler, bref, un désarroi a grandi dans la population jésuitologique, et j'ai tâché le mieux possible de mettre fin à ce désarroi, donc à partir de la fin 2018, mais il était par ailleurs tout à fait légitime que nous soyons deux signataires de la direction de ce volume, puisque en effet il a eu ces deux vies espacées par ce temps de latence. Alors ça en fait un objet un petit peu particulier, mais aussi un objet qui a dû, alors comme tout dictionnaire, mais de façon particulièrement aiguë, je dirais, donner lieu à un aggiornamento véritable lorsqu'il a été repris, en particulier parce que tout étant resté en l'état, évidemment, entre-temps, beaucoup de choses avaient changé. Alors, peut-être pour prendre deux exemples très très frappants, le premier, je le prends d'autant plus que l'auteur est là, c'est lorsque Benoît Pierre a ouvert ses travaux du dictionnaire en 2009, il n'y avait pas de notice prévue sur Jorge Bergoglio, qui était un évêque latino-américain, comme beaucoup d'autres, plutôt plus discret que beaucoup d'autres, d'ailleurs, dans cette période, et donc aucune notice n'était prévue. Lorsque j'ai repris le dossier, il était évident qu'une notice sur le pape François s'imposait, que j'ai confiée à Frédéric Guchelot, ici présent, et qui s'est fort bien acquitté de cette tâche. Second exemple frappant, et dont j'ai été moi-même cette fois-ci la première victime, si je peux dire, c'est que je me suis rendu compte, lorsque ce dictionnaire était en train d'être fini, qu'aucune notice n'était consacrée à la question des violences sexuelles. C'est une question qui pouvait ne pas être abordée lorsque ce dictionnaire a été forgé en 2008. Il devenait incompréhensible que rien ne soit fait sur cette question 15 ans plus tard, en particulier parce que ce que je craignais par-dessus tout, c'est que le lecteur puisse considérer que la Compagnie de Jésus, à travers moi, si je peux dire, pouvait se considérer, au fond, étrangère à ce problème qui agitait considérablement le monde médiatique, mais aussi le monde ecclésiastique et le monde chrétien en général. Donc, j'ai dû produire une notice qui s'appelle « Violence sexuelle » dans ce dictionnaire, dans les derniers jours d'août 2022. C'est une notice qui m'a coûté beaucoup, en particulier parce que je devais tenter d'y résoudre une sorte d'équation presque impossible, qui était de décrire un texte dans l'extrême urgence, puisque le directeur des éditions Bouquin attendait jour après jour que j'envoie ce texte, et que par ailleurs je voulais que ce texte reste fidèle à l'esprit du dictionnaire, c'est-à-dire que ce soit un texte non pas fondé sur l'immédiate actualité, mais sur la longue durée de la réflexion que l'on peut conduire sur l'exercice de la violence, en particulier de la domination sur les corps, dans la longue durée de l'histoire de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire en particulier dans la longue durée de l'existence des collèges, et en particulier dans la longue durée de la colonisation, et donc de la présence et de la relation entre les jésuites européens et les Indiens, par exemple, dans le monde colonial. Alors, il fallait que je fasse tout ça en deux soirs à la fin du mois d'août. Donc, j'espère que vous prenez pitié de moi, et j'espère surtout que cette notice n'est pas trop indigne de ce qu'était l'esprit du dictionnaire, c'est-à-dire être véritablement, pour la première fois, comme Philippe Hendine l'a l'a rappelé, la tentative en France, tout au moins, d'épouser l'histoire de la Compagnie de Jésus dans la totalité de son développement. Mais au-delà de ces aggiornamenti ponctuels, la question s'est posée aussi, et là, ce que disait Denis Pelletier était tout à fait essentiel, la question s'est posée d'une progressive évolution dans la conception même de ce dictionnaire depuis l'époque moderne vers l'époque contemporaine. Quand ce dictionnaire s'est ouvert en 2008, nous étions en 2008, 6 ans avant 2014, c'est-à-dire qu'on était 6 ans avant la grande effervescence qui s'est développée dans l'historiographie autour de la restauration de la compagnie en 1814 et en particulier autour de ce qui ouvrait finalement une nouvelle vague d'études sur là ce qu'on a appelé longtemps la nouvelle compagnie. Et il se trouve qu'entre 2008 et 2018, beaucoup de travaux se sont faits et que finalement, ce qui a été l'une de mes responsabilités dans cette affaire, ça a été de progressivement tenter, sans y parvenir, et là Denis a raison, sans y parvenir complètement loin de là, de tenter d'équilibrer ce dictionnaire entre ces deux grandes périodes, puisque l'un des enjeux était vraiment d'embrasser la totalité de cette histoire et de porter ou de favoriser une réflexion sur ce que Dominique Salin évoquait à l'instant, c'est-à-dire la question du rapport entre deux, trois compagnies, voire même une seule compagnie unique, puisque c'est aussi une tendance qui reste parfois active dans l'historiographie, de considérer cette compagnie comme unique. Donc, véritablement, la conception de ce dictionnaire a été l'histoire de ces degrés ou ces niveaux d'aggiornamenti qui ont marqué ces dernières années et qui font d'une certaine façon tout à la fois des imperfections, des déséquilibres, des dissymétries de ce dictionnaire un reflet de ce qu'est la réalité contemporaine de l'historiographie de la compagnie, c'est-à-dire une historiographie qui s'émancipe de l'époque moderne, qui s'est lancée à la conquête des 19e et 20e siècles, d'une façon souvent très, très féconde depuis quelques années, mais qui reste très massivement fondée, ancrée en quelque sorte, dans la compagnie moderne, telle que elle a été réexplorée, en particulier, Dominique Salin évoquait Lugière tout à l'heure, en particulier à partir des années 90, lorsque véritablement la compagnie moderne est tombée dans le domaine public, si je peux dire, et où toute une génération de nouveaux historiens s'est emparée de cette histoire en tentant de lui apporter évidemment de nouveaux éclairages et d'en retirer eux-mêmes pour leur travail de nouveaux bénéfices. Donc la conception, c'est celle-là. Alors, évidemment, je ne peux pas revenir ici, mais j'espère que la lecture ou la consultation, l'usage, comme disait très bien Denis, de ce dictionnaire, sera tel qu'il favorisera cette réflexion sur cette pluralité des compagnies, sur le moment où l'on peut considérer qu'une nouvelle compagnie intervient dans le courant du XXe siècle. J'ai le sentiment pour moi-même que ce qui ressort de façon très très forte, c'est peut-être que l'un des grands moments de la Compagnie de Jésus après le XVIe siècle a été le second XXe siècle, c'est-à-dire en particulier en France l'engagement dans la résistance, puis l'engagement dans tout le processus de décolonisation. Il me semble qu'on retrouve une grande compagnie de Jésus dans ce second XXe siècle, telle peut-être qu'on ne l'avait plus connue depuis longtemps et qui me semble-t-il aussi contrarie l'idée que cette compagnie aurait connu son âge d'or, sa gloire au XVIe siècle et au fond aurait très progressivement sorti du premier plan de la scène de l'histoire. Il me semble qu'elle est au premier plan dans le second XXe siècle et que du reste, elle est au premier plan d'une manière qui va puiser ses racines dans le XIXe siècle, d'où tout l'enjeu de la redécouverte du XIXe siècle, puisqu'au fond, les jésuites qui s'intéressent à l'indépendance, aux indépendances dans l'Afrique, hein, de l'après Seconde Guerre mondiale, sont les héritiers de ces jésuites qui se sont intéressés, en tant qu'ex-jésuites souvent, au processus d'indépendance des nations latino-américaines dans le premier XIXe siècle. On a une sorte de longue histoire du rapport des jésuites à l'indépendance nationale qui se poursuit dans le second XXe siècle, mais qui s'est amorcée en Argentine, au Chili, au Pérou, au Paraguay, dans le premier XIXe siècle. Et j'espère que l'ensemble de ce grand récit qui ouvre le dictionnaire permettra de le retrouver, et donc permettra véritablement de relancer une sorte de longue dynamique, hein, de l'histoire de la compagnie à travers ces trois siècles. Alors, peut-être tentative de réponse à certaines suggestions de mes camarades. Alors je reviendrai aux exercices dans un instant, mais peut-être pourquoi une aussi longue notice sur Federico Faora? Alors Dominique Salin a presque ironisé sur l'importance de l'œuvre astronomique de Federico Faora. Il avait un public bienveillant pour cette ironie, puisqu'effectivement, ce n'est pas l'astronome le plus connu que l'on puisse imaginer. Alors pourquoi n'ai-je pas cherché à raccourcir cette notice? D'une part parce qu'elle était l'œuvre d'un vénérable et très, très, très vieux jésuite, José de Arcilla, que je ne connais pas, mais qui vit depuis de longues décennies aux Philippines et dont je n'avais pas du tout envie de raccourcir la notice. Et puis parce que aussi c'était ce qui permettait peut-être de donner un certain poids à ce qui est véritablement un déséquilibre dans le livre, c'est-à-dire ce qu'il en est de l'engagement des jésuites dans les sciences à l'époque moderne et à l'époque contemporaine. Il est évident que ces entrées thématiques qui ont toujours cherché à embarquer les deux grandes périodes, disons, de l'histoire de la compagnie, entre avant 1773 et après 1814, eh bien, il est certain que pour les sciences, la comparabilité est difficile. Alors, j'ai cependant cherché à quand même maintenir quelque chose de cette comparabilité, et du même coup, le destin de Federico Faora, astronome, animateur de l'observatoire jésuite de Manille pendant des décennies au XIXe siècle, a été l'occasion peut-être de tenir cette ligne sur les jésuites et l'astronomie, en particulier parce que c'est une ligne qui est très intéressante aussi dans le moment de la restauration de la compagnie où beaucoup se joue à Rome autour de la reconquête en quelque sorte par la compagnie de Jésus de l'observatoire d'astronomie qu'elle avait perdu au moment de la suppression. Donc il y a dans l'entre-ligne, si l'on veut, il y avait cette préoccupation, hein, et François Hevet avait attiré mon attention sur ce point d'ailleurs, et je la remercie. C'était une manière de travailler dans la longue durée, hein, le rapport des jésuites à l'astronomie, qui est évidemment pas comparable lorsqu'on parle de Federico Faora et lorsqu'on parle des relations complexes de la compagnie de Jésus avec Galilée. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même, on joue pas dans la même cour, si je peux dire, hein, mais cela m'importait néanmoins. Et puis cela m'importait aussi finalement d'insister par cette voie-là, comme par beaucoup d'autres dans le dictionnaire, sur l'importance des Philippines, qui est vraiment un investissement de très longue durée des jésuites, depuis la fin du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, territoire extraordinairement complexe, comme vous le savez tous, et c'était une manière de faire revenir aussi ce qui a été finalement l'activité scientifique des jésuites aux Philippines, aussi une prodigieuse activité linguistique, en particulier dans la production de dictionnaires, comme dans bien d'autres lieux du monde. Mais voilà, c'était aussi voilà. Donc je tente ce plaidoyer pour Federico Faora, qui ne m'en sera pas gré, mais je le fais quand même. Alors, en revanche, alors, j'ai été étonné par ta... pourquoi est-ce que... pourquoi deux colonnes seulement sur Michel de Certeau? C'est injustifiable. C'est injustifiable, sauf que je n'avais pas envie de le faire descendre dans le tombeau de ce dictionnaire. Voilà, c'est tout. Je le dis avec émotion, comme vous le voyez. Et donc finalement, c'est certainement ce qui m'a guidé. Et alors, on arrive à ce paradoxe d'un Federico Fellini qui se déploie alors que Michel de Certeau se tient dans ces deux colonnes. Ça a dû tenir à cette difficulté que j'ai. Alors, j'assume cette difficulté. Concernant maintenant Gaston Fessard, qui vous a réunis tous les deux dans la critique. Alors, je dois dire que, effectivement, j'ai été surpris moi-même par la discrétion de la dialectique des exercices dans cette notice. La question, pourquoi est-ce que je n'ai pas, pour ne rien vous cacher, je ne me suis pas privé, quand je ressentais des manques cruels dans certaines notices, de faire des ajouts, soumis aux auteurs, évidemment, après. Mais le fait est qu'avec Gaston Fessard, je n'ai rien vu passer. Alors ça, je pense qu'il y a une raison personnelle. C'est que lorsque j'ai découvert la dialectique des exercices spirituels, dans les années 80, au début des années 80, j'ai été absolument enthousiasmé par ce livre, parce qu'en tant qu'ancien philosophe, et m'étant converti en quelque sorte à l'histoire pour suivre les traces d'Ignace de Loyola en particulier, eh bien ma vie se trouvait réunie parce que un grand philosophe s'était intéressé aux exercices spirituels, et donc le tourment au fond d'avoir quitté la philosophie me quittait. Mais alors après, j'ai eu un mal fou à extraire les exercices spirituels de la gangue philosophique fantastique dans laquelle Gaston Fessard l'avait placé. J'utilise ce mot de gang en référence indirecte à la manière dont on dit que Marx a dégagé Hegel de la dialectique de sa gang. Eh bien, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intéresser aux exercices par-delà l'empire qu'avait pris sur moi le livre de Gaston Fessard. Et donc, je l'en ai voulu, finalement. Alors, je pense que c'est de là. Mais vous voyez, je plaide coupable, là, en prenant des engagements personnels, là où je ne devrais absolument pas les prendre, mais tant pis, je les prends. Je crois que c'est pour ça que je n'ai pas vu l'absence de la dialectique des exercices. Donc, j'attends, évidemment, fiévreusement, la nouvelle édition du dictionnaire pour faire revenir la dialectique des exercices. Et donc, redonner toute sa portée au christianisme dialectique qu'évoquait Denis. Alors, par rapport aux problèmes, aux différents problèmes que Denis a posés, je dirais à propos de sa déambulation très très excitante dans les notices et leur renvoi. Je dirais que peut-être que ce qui a manqué à ta lecture, c'est un cinquième niveau, c'est-à-dire un passage par les index. Parce que si tu étais passé par les index, tu aurais découvert une chose, c'est qu'en fait, il y a ces deux massifs, un grand récit, comme on le disait, grand récit de la Compagnie de Jésus du XVIe au XXe siècle. Et puis, de l'autre côté, par rapport à ce grand récit, évidemment, favorisant l'histoire d'un corps, le déploiement d'un corps, les mutations d'un corps, enfin bref, dans une lecture collective de la Compagnie de Jésus, eh bien, on avait ensuite cette partie dictionnaire qui faisait au contraire émerger des figures, des personnalités, des destins individuels. Et il me semble que le niveau de l'index, mais c'est ton propre discours, Denis, qui me le fait apparaître, le niveau de l'index permet, en quelque sorte, de réinjecter les individus dans le grand récit collectif. Puisqu'au fond, les index ont en caractère gras les pages qui portent sur les chroniques, les notices directement consacrées aux personnages, et puis il y a par ailleurs en caractère maigre toute la manière qu'ils ont d'intervenir de multiples manières. Alors c'est ce qui m'a sauvé. En caractère maigre, il intervient beaucoup, même si en caractère gras, il n'a que deux malheureuses colonnes. Mais c'est-à-dire que cela permet un jeu de va-et-vient, disons vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas cette aventure de l'individualisation progressive d'un grand corps collectif. On a aussi retour par les index dans la prolifération d'individus à l'intérieur même de ce grand récit. Et je crois que de ce point de vue-là, les index, au-delà du charme. Indéfinissable de l'index en général dans un livre, mais ces index-là sont vraiment très fonctionnels de ce point de vue-là. Donc ça serait vraiment ma réponse à ton interrogation sur ces choix et sur la question de cet ancrage moderniste. J'ai essayé déjà de te répondre. Alors pour laisser ensuite la parole à la salle, je vais simplement peut-être déclarer les deux manques qui me sont apparus de façon très forte en ressassant, disons, ce dictionnaire. Le premier manque, c'est que je pense, et c'est un manque qui m'est venu vraiment beaucoup à l'esprit. L'autre jour, il y a eu une présentation du dictionnaire à la procure, et alors quelqu'un a posé la question, mais au fond, qu'en est-il des exercices dans l'histoire de la compagnie? C'est une question qui m'a un peu pris au dépourvu, parce que évidemment qu'il y a 36 000 choses sur les exercices dans ce dictionnaire, mais finalement, si la question était posée, c'est que quelque chose n'allait pas de soi. Et donc, j'en ai tiré la conclusion, une conclusion par laquelle je m'auto-flagelle, évidemment, avec bonheur, puisque c'est moi qui ai fait la notice exercice, donc je suis le premier coupable. Mais il me semble que, en effet, quelque chose n'est pas suffisamment apparent. Alors, pourquoi, évidemment, après avoir fait apparaître un manque, je vais essayer de me justifier de ça. Pourquoi ? Parce qu'il me semble pour deux raisons essentielles. La première raison, ce manque-là que faisait apparaître la question de la procure, c'est vraiment le rapport entre la raison d'être et la raison sociale, finalement. Au fond, ce que me demandait cette personne, c'était, mais qu'en est-il au fond de la raison d'être et qu'en est-il de la manière dont les exercices pourraient la faire apparaître ? Donc je crois, à cela, j'aurais deux réponses. Finalement, on est déjà dans l'après-dictionnaire à ce niveau-là, mais c'est intéressant aussi d'être dans l'après-dictionnaire. Les deux raisons principales, c'est qu'en réalité, l'histoire des exercices dans l'histoire de la Compagnie de Jésus est d'une extraordinaire... c'est une complexité qui nous dépasse, je pense, encore, en particulier parce que c'est une histoire trouée, hein, comme Patrick Goujon l'a bien montré dans beaucoup de ses travaux. C'est une histoire qui n'est pas continue. Hein. Les exercices ne sont pas toujours dans la Compagnie de Jésus ce qu'ils sont, d'ailleurs ce qu'ils sont d'une certaine façon avant même la Compagnie de Jésus, puisque les exercices précèdent l'histoire de la Compagnie de Jésus entre les années 1520 et 1540 dans la vie d'Ignace et de ses premiers compagnons. Mais c'est ensuite une histoire trouée. C'est une histoire dans laquelle, d'ailleurs, et c'est très, très, très impressionnant, ça, les moments de véritable intensification, pourrait-on dire, des exercices dans la compagnie sont toujours des moments qui ont correspondu à des moments de crise aussi de la compagnie. C'est-à-dire, par exemple, après la restauration, sous le généralat de Rotan, quand elle cherche à réexister dans le champ social et avec les exercices pas qu'un extra, qui sont donc un instrument d'immersion sociale de la compagnie, ou bien alors dans les années 1960, à le moment où Maurice Giuliani accomplit cette œuvre fondamentale dans la collection Christus, c'est aussi un moment dans la mouvance de Vatican II, dans la mouvance du rapport avec la psychanalyse, où la compagnie s'interroge sur elle-même, sur sa place sociale, sur son statut spirituel. Donc il y a des moments d'intensification, et puis il y a des moments, me semble-t-il, aussi d'invisibilisation, en quelque sorte. Il y a de grands débats, par exemple, une question que j'aimerais bien développer un jour, qui me semble une, mais dont j'ai souvent parlé avec Goujon, c'est une question extrêmement compliquée, ça. Par exemple, la question des maisons d'exercice. Doit-il y avoir des maisons dans lesquelles on fait les exercices? Ou alors, les exercices doivent toujours être faits en dehors de maisons spécifiques? Ça, c'est un grand débat qui porte sur l'identification ou la relation au lieu communautaire, voire même au lieu conventuel. C'est un problème. Et la question des maisons d'exercice, on la voit ressortir comme un serpent de mer dans les quatre siècles d'histoire de la Compagnie de Jésus, sans que jamais véritablement personne ne soit arrivé à en tirer le fin mot. Et puis la deuxième grande raison, c'est que c'est aussi une histoire qui est d'une actualité proliférante. D'une actualité tellement proliférante que je pense que le dictionnaire est en retard sur cette actualité. J'en prendrai deux exemples, deux exemples qui datent vraiment de ces jours-ci. Le premier exemple, c'est un séminaire dans lequel je suis engagé à l'école des hautes études sur les exercices spirituels au sens très large, c'est-à-dire depuis les stoïciens jusqu'à la pleine conscience dans la spiritualité américaine contemporaine. La place des exercices spirituels d'Ignace de Loyola dans cette longue histoire est une place absolument passionnante, décisive, clivante, exceptionnelle. On n'a pas fini de le penser, ça, me semble-t-il. Et mon rôle dans ce séminaire, c'est de faire exister les exercices d'Ignace entre les stoïciens et la pleine conscience. C'est une tâche de laquelle je m'acquitte avec la modestie la plus grande que vous puissiez imaginer. Mais c'est vous dire la vitalité du problème des exercices spirituels dans la pensée contemporaine. Autre exemple qui date aussi de cette semaine, aussi à l'école des études en sciences sociales, où il se passe toujours beaucoup de choses, comme vous savez, c'est le séminaire d'une anthropologue coréenne qui s'interroge sur la place de l'imagination dans le rapport aux morts, et en particulier parce qu'elle travaille sur le rapport aux morts de la Corée dans le second XXe siècle, et comment est-ce que dans la récupération de ces morts, souvent morts en mer, etc., la place de l'imagination. Et alors, cette jeune collègue dit, à ma plus grande surprise, dans ce séminaire dans lequel j'étais invité à participer, mais jamais je ne serais allé vers cette problématique si mes parents ne m'avaient pas parlé très jeune des exercices d'Ignace de Loyola. Grande a été ma surprise d'autant plus que cela m'a fait penser quelque chose que je n'avais jamais pensé véritablement, qui était précisément la relation au c'est-à-dire cet extraordinaire double voyage, au fond, d'aller retrouver ceux qui étaient en terre de Palestine à l'époque de Jésus-Christ, ou bien de faire revenir vers nous ceux qui étaient en Palestine pour les faire vivre dans notre monde contemporain, c'est-à-dire aller voyager au pays des morts ou faire revenir les morts vers nous, par la médiation suprême, évidemment, de celui qui est revenu, Jésus-Christ. Cette question-là, c'est-à-dire c'est l'intensité de cette relation avec les morts telle qu'elle habite l'exercice spirituel, avant cette semaine, je ne l'avais réalisée. Et pourtant, j'ai consacré des pages et des pages à essayer de réfléchir sur la manière en particulier de à l'époque de la Renaissance, de représenter les scènes de l'Évangile, en tentant de reconstruire la scène évangélique, ou en tentant au contraire d'actualiser la scène évangélique, toutes ces questions qui m'ont occupé à propos du Caravage ou d'autres, eh bien je n'avais jamais aperçu avec cette crudité l'intensité de la relation à la mort dans les exercices. Et Ça, je le dois à cette anthropologue coréenne. C'est donc vous dire que les exercices sont incroyablement vivants dans la manière dont ils nourrissent une anthropologie, une spiritualité aujourd'hui. Et cela me semble fondamental et je regrette de ce point de vue-là de ne pas avoir fait encore plus de colonnes sur les exercices qu'il en a été fait sur Federico Faora par José de Ercilla. Et puis l'autre entrée qui manque, alors elle est en continuité avec la première d'une certaine façon, l'autre entrée qui manque, c'est la mort. J'étais d'ailleurs persuadé qu'elle y était, mais non, elle n'y est pas. Et alors je pense qu'elle manque évidemment, beaucoup cette entrée. Alors là, j'ai hâte aussi de la prochaine édition. Pourquoi est-ce qu'elle manque? J'ai fini. Elle manque parce que ce qui est apparaît dans le volume et ce qui apparaît de façon très émietté, c'est l'ampleur de ce qu'a produit la Compagnie de Jésus sur la mort, et en particulier sur l'art de mourir, sur les arts de mourir. Et en particulier, je me suis intéressé récemment beaucoup au cardinal Bellarmine. Le traité magnifique de Bellarmine sur les arts de mourir est un traité qui est en réalité un traité considérable dans la manière dont il situe Bellarmine dans la communauté chrétienne en général, dans la manière dont il articule la mort en martyr à la mort ordinaire, puisqu'au fond, dans les deux cas, il s'agit d'attendre la mort sans jamais la provoquer. Et puis finalement, évidemment, l'énorme importance de la contribution jésuite au problème de la mort, et en particulier de la fin de la vie. Je dis fin de la vie et pas fin de vie, parce que quand on dit fin de vie, on a l'impression que la vie a déjà perdu son article, que donc il ne reste plus grand-chose à faire. Donc, tout ce qu'a écrit la Compagnie de Jésus sur la fin de la vie, qui a été fondamentale dans les 20 dernières années, je pense que cela aurait dû avoir une place beaucoup plus importante dans le dictionnaire, parce qu'à mon avis, ça a été une des actions fondamentales de la Compagnie dans notre monde contemporain. Voilà donc un deuxième regret que j'ai et qui sera, je l'espère, réparé dans la prochaine édition. Voilà, je m'arrête. Et en vous remerciant encore pour toutes vos réflexions. Et nous attendons de la salle, évidemment, d'autres critiques.
Il n'étonnera personne que la note que j'ai passée à Pierre-Antoine avait dit, vous avez déjà parlé plus que 30 minutes.
D'ailleurs, je me suis arrêté aussitôt après.
Oui, exactement. Et il anticipe des critiques. Je voudrais quand même utiliser les privilèges de ma position en lui posant la première question. Vous avez passé 30 minutes en répondant aux critiques, Federico Faura et son importance et tout cela, sur les manques, sur vos regrets. Vous avez parlé presque d'autoflagellation. Mais quels sont les fruits positifs de ce livre, selon vous? Vous avez vécu avec ce livre beaucoup. Vous avez investi beaucoup de travail. C'est clairement... Quelles sont les choses desquelles vous êtes le plus fier? Et vous avez 2 minutes.
C'est tant mieux que j'ai 2 minutes, parce que je ne suis pas fier de grand-chose. Hein, donc ça sera... Donc, ça sera vite fait. Non, non, je pense que ce qui est en 2 minutes, je pense qu'il y a peut-être 3 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est d'être entré dans une forme de complexification qui sera, je pense, dans les années à venir toujours plus grande dans la relation entre les deux grands moments de la Compagnie. Non seulement parce que, comme tu le disais, il y en a 3, il n'y en a pas 2. Mais aussi parce qu'on se rend compte de plus en plus que tout ce moment qui intervient entre la suppression et la restauration est en réalité un moment qui est extraordinairement vivant, que finalement le temps de la suppression, au fond, quand au chagrin, parce que la Compagnie n'a jamais cessé de vivre en réalité pendant toute cette période, mais qu'elle n'a jamais cessé non plus de connaître exil, interdiction, expulsion. C'est donc une histoire dramatique depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Et que par conséquent, au fond, ces deux grandes dates, 1714, sont deux grandes dates fétiches, au fond, qui demandent vraiment à être progressivement dissoutes dans un continuum beaucoup plus complexe, qui est celui de la vie, de la longue vie de la Compagnie de Jésus. Le second bénéfice, je pense, c'est que il est certain que la question missionnaire est centrale. Bon, elle est centrale parce que, de fait, là, pour des raisons de travail personnel, je connaissais beaucoup d'auteurs travaillant sur ces questions. Elle est centrale aussi parce que je pense véritablement que c'est que le projet missionnaire, c'est absolument le coup de génie d'Ignace de Loyola. C'est son coup de génie, c'est-à-dire de se rendre compte dès avant 1540 que véritablement ce que la chrétienté, la vieille unité chrétienne est en train de perdre en Europe avec le schisme des réformes, il faut qu'elle le regagne dans le monde avec la conquête d'un catholicisme universel. Ignace de Loyola s'en rend compte, avec le roi de Portugal, depuis Paris, dès avant la fondation de la compagnie, et c'est vraiment son coup de génie. C'est son coup de génie parce que c'est là qu'il devient le fer de lance du catholicisme tridentin et post-tridentin, et c'est là aussi que véritablement il engage des forces de transformation, de rénovation extraordinaire par rapport à ce qu'était l'ancienne conception médiévale des missions. Chez François d'Assise, par exemple. Donc, je crois que cette puissance du projet missionnaire, absolument décisive, je pense que, et qui fait de l'ordre de la Compagnie de Jésus un ordre unique, non seulement il est unique parce qu'il est fondé en quelque sorte tout à la fois dans l'extrême modernité d'un projet de réforme du catholicisme, mais aussi dans l'extrême vigueur d'une réaction à une autre modernité qui est celle des réformes. La Compagnie de Jésus, elle naît dans cette double tension dans laquelle elle restera toujours. Elle restera toujours soumise à ces tensions réformatrices contre réformatrices. Non pas qu'il y ait des jésuites de droite ou des jésuites de gauche, c'est pas le problème, mais la Compagnie de Jésus a toujours été soumise à ces fortes tensions. Et je crois que le projet missionnaire tente d'articuler ces tensions, d'une part en répondant à la réforme et d'autre part en promouvant une nouvelle époque de l'évangélisation. Et puis, troisième et dernièrement, je pense aussi que tout le problème de l'anti-jésuitisme, qui est un problème extraordinairement intéressant, difficile, sur un plan politique, littéraire, qu'idéologique, que diplomatique, cet anti-jésuitisme, qui est aussi vieux que la Compagnie de Jésus, évidemment, eh bien, je pense qu'il a droit de citer dans ce dictionnaire pleinement, c'est-à-dire qu'on a tous les moyens de réfléchir d'une manière post-fantastique, post-fantasmatique à ce que c'est que l'anti-jésuitisme comme discours, est-ce qu'au fond, la place qu'il tient dans l'histoire de la Compagnie de Jésus elle-même. Donc ça, ce serait trois choses dont je ne suis pas mécontent. Voilà.
C'est très traditionnel qu'il y ait trois points. Merci. La salle est ouverte et Brigitte voyage avec un microphone. Je propose qu'on prenne deux ou trois questions ensemble.
Xavier Boniface, je suis un des très nombreux contributeurs du dictionnaire. Je suis très heureux de l'aboutissement et puis du résultat qui est remarquable. Alors, sur la question, est-ce que la notice de Certeau est trop courte ou pas, moi je trouve que c'est un faux problème. C'est une question qui se pose pour tous les dictionnaires. Il y a les très grandes figures incontournables. Qu'on en fasse 2 ou 10 colonnes, finalement, ça n'apportera rien. Il y a déjà des biographies fort savantes et remarquables sur Michel de Certeau. Le dictionnaire ne peut pas apporter davantage. En revanche, l'intérêt d'un dictionnaire, à mon avis, c'est de faire découvrir des figures beaucoup moins connues, celles dont on a cité tout à l'heure, par exemple. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on va aller chercher dans le dictionnaire, plutôt que de revoir pour la énième fois une biographie de Michel de Certeau ou de Henri de Lubac. Voilà. Alors, qu'il soit là pour rappel, avec là peut-être quelques références, c'est plus là où j'irai chercher les références bibliographiques qui me semblent plus intéressantes, pour voir me retourner vers des ouvrages plus approfondis qui ont déjà donné lieu à une énorme bibliographie. Voilà, c'est un petit peu mon point de vue.
Moi aussi, je suis un des auteurs du volume. D'abord, au départ, on nous a limités. On nous a dit 7000 signes et 3 références bibliographiques. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé avec Michel de Certeau. Donc, si vous voulez obéir aux consignes, on va dire aux contraintes, il fallait passer par un lit de Procuste. Et je pense que quand Antoine a repris la direction, les choses ont pu bouger. Le travail a été fait, même si on a repris, on a relu, on a corrigé, etc. Et puis, je voudrais ajouter une autre chose. Je souscris à tout ce qui a été dit. C'était d'ailleurs passionnant. Toutes vos interventions étaient passionnantes pour moi, beaucoup de choses. Mais je représente, on va dire, une minorité. Sur des jésuites centre-européens. Et je voudrais moderniste. Bon, d'abord, comme on l'a déjà dit à un autre débat, au XXe siècle, il faudrait vraiment leur accorder attention. Première chose. Deuxième chose, la fondation, c'est vrai, les textes fondateurs, les personnes, c'est bien sûr le XVIe. Il n'y a pas que la mission, il y a la mission dans l'Europe, passer à la réforme ou complètement, disons, passer à différentes formes qui n'est plus catholique, tout en formé, donc l'Europe centrale et une partie de l'Europe, ou calviniste, etc. Bon. C'est pas un missionnaire, mais c'est quand même quelqu'un qui a une place fondamentale. Et je pense que il faudrait pas. La grande difficulté, les grandes difficultés. Sur la Pologne, la Hongrie, la Transylvanie. Moins, parce que là, il y avait des appuis ecclésiastiques plus importants. Peut-être pas suffisamment visible dans ma paroisse, mais qui est quand même très importante, parce que eux, ils ont subi le marché. Ça, c'est des choses, ça ne va pas de soi. En Italie, les choses se passent d'une certaine façon. En France, on dit trop fort, c'est compliqué, mieux. Et donc, et là, je rejoins ce que disait M. Salin. Par exemple, j'ai constaté, moi, il y a très longtemps, que certains jésuites centre-européens n'étaient traduits en français et connus d'une façon plus large, comme Drexel, qu'au XIXe siècle. Donc il y a... jésuite, premièrement, et deuxièmement, ils ont beaucoup contribué à une littérature néo-latine, à la poésie dans les espaces qui m'occupent, et aussi dans les langues vernaculaires. C'est très important.
Et on prend une troisième intervention. Et la brèveté console.
Oui, Monsieur Fabre, c'est juste pour avoir une idée. Quand on vous a proposé, vous avez mis quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour accepter?
J'ai accepté immédiatement. Et je l'ai ensuite regretté pendant quelques jours.
Sur les autres interventions, est-ce qu'il y a quelque chose?
Oui, sur l'anti-jésuitisme, en réalité, je crois qu'on pourrait faire une histoire de la Compagnie de Jésus, d'ailleurs ça a été fait, et toi entre autres y avais contribué, une histoire de la Compagnie de Jésus par l'histoire de l'anti-jésuitisme. Pourquoi l'histoire de la Compagnie de Jésus est-elle une histoire obsidionale? Ils sont toujours attaqués, pas les franciscains, pas les dominicains, hein, les jésuites. Pourquoi ont-ils suscité toujours et partout de tels contradicteurs? Pour moi, c'est une question. Je ne sais pas si les historiens peuvent y répondre.
Peut-être pas, j'avais juste un... Alors d'abord, je voulais remercier Xavier Boniface parce qu'il m'a donné un autre argument pour justifier la brièveté de l'entrée Michel de Certeau, autre que celui de ma mélancolie. Donc merci. Merci beaucoup. Et pour Marie-Elisabeth Ducreux, c'est ce que tu dis ravive en moi vraiment deux souvenirs très précis et qui finalement rendent compte aussi du fait que, et ça je crois il faudra le réparer aussi, de la difficulté peut-être aujourd'hui encore à véritablement prendre la mesure de l'histoire contemporaine de la Compagnie de Jésus dans l'ancienne Europe de l'Est. Les deux souvenirs, ça serait je me souviens d'une conversation avec le père Schillas quand il était directeur de l'Archivum Historicum Societatis Jesu. J'étais allé le voir à Rome avec Antonella Romano et on avait eu une conversation absolument passionnante enfin, on l'écoutait beaucoup faire le récit, hein, avec l'intelligence extrême qui était la sienne, faire le récit des relations entre la Hongrie communiste entre la Hongrie communiste, la Compagnie de Jésus et Rome, et comment est-ce que finalement, dans une espèce de jeu du chat et de la souris qui avait duré, hein, sous Kadar et en particulier, comment est-ce que les jésuites n'avaient cessé de circuler, et lui en particulier. La Hongrie, hein, tantôt accueillie, tantôt renvoyée, enfin une histoire très qui était dramatique, mais qui n'était pas seulement dramatique parce qu'elle témoignait aussi à certains moments d'une véritable existence, hein, paroissiale, hein, pas une existence officielle comme compagnie, mais qui témoignait d'une véritable existence de ces jésuites en Hongrie. Mais je me souviens qu'on était ressorti avec mon Antonella Romano, qui est bien célèbre pour tous ses travaux sur la compagnie. On en était ressorti avec le sentiment que c'était une histoire incroyablement était encore à écrire. Et je me souviens aussi que dans ces mêmes années, Pierre Bourdieu, qui à l'époque était dirigeait un supplément du Monde qui s'appelait le supplément Libère, que certains peut-être ici regrettent encore, et Bourdieu avait demandé à Louis Marin et à moi-même, c'était en 89, juste après la chute du mur, de travailler à une livraison de Libère sur les jésuites en Europe de l'Est. Et par là-dessus, Louis Marin est mort, Libère est mort aussi, et ce dossier ne s'est jamais fait. Et j'en ai toujours gardé une nostalgie profonde parce que on avait eu le sentiment à ce moment-là qu'en effet quelque chose d'essentiel était à faire et à produire. En particulier dans un moment où l'on peut dire, en toute objectivité, que Jean-Paul II ne faisait pas de la Compagnie de Jésus, l'arme maîtresse, hein, de sa reconquête de l'Est. Donc c'était un moment très, très intéressant, très riche, et surtout dans le moment qui suivait la période des démocraties populaires. Donc j'en ai un très vif regret de ce numéro qui ne s'est jamais fait. Et donc... il serait très bien, Marie-Elisabeth, qu'on travaille à enrichir ce versant contemporain dans la seconde édition. Merci donc pour ces...
Je pense qu'on a le temps pour encore deux interventions, deux questions. Michel.
Bon, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question. J'ai pas beaucoup avancé encore dans la découverte du dictionnaire. Bien sûr, les questions du dictionnaire de Trévoux. Cet ouvrage-ci donne-t-il au dictionnaire, justement, dans la Compagnie de Jésus? Au XXe siècle, par exemple, quand même, parmi les réalisations importantes de la Compagnie de Jésus, il y a eu le dictionnaire Ricci, le dictionnaire de spiritualité. Voilà, c'est un peu une question que je voulais poser. Enfin, c'est sûrement présent, mais je ne sais pas trop de quelle manière. Bon, il y a bien sûr l'article dictionnaire de Trévoux, si je me trompe. Voilà, ça, c'était le premier point. Second point, c'était une remarque. Simplement, j'ai été un peu surpris, mais heureusement surpris, par le fait qu'il y ait un article, je ne sais plus si une entrée, je ne sais pas s'il est intitulé Jérusalem ou Terre Sainte, je ne me rappelle plus. Je trouve ça très, très important, très, très heureux, compte tenu de l'importance du voyage à Jérusalem en Terre Sainte, dans le récit, au milieu même du récit. Et c'est, je trouve très intéressant qu'il y ait une entrée, effectivement, sur ce que représente le rapport à la Terre Sainte, à Jérusalem, dans l'histoire de la compagnie. C'est une remarque, plus qu'une question.
Peut-être je peux apporter deux. Merci beaucoup, Michel Feydeau, pour ces deux questions. Les dictionnaires qui parcourent l'histoire de la compagnie apparaissent régulièrement à plusieurs reprises dans ce dictionnaire, en particulier le dictionnaire de Trévoux. Le dictionnaire de Trévoux, c'est pour ceux qui ne l'ont pas immédiatement en tête, c'est vraiment un des lieux au sens que indiquait Denis Pelletier, un des lieux textuels qui permettent de penser. C'est ce que Lebrun d'ailleurs avait fait à une époque où on parlait peu de la Compagnie de Jésus au XVIIIe siècle, dans une livraison de la revue du XVIIIe siècle en 60. Sur la Compagnie de Jésus au XVIIIe, qui était resté un numéro totalement un apax, parce que la Compagnie de Jésus est encore aujourd'hui moins travaillée pour le XVIIIe que pour d'autres siècles. Et ce qui ressortait véritablement, et ce que Bernard Ours a très bien fait revenir dans ce dictionnaire, c'est le fait que le dictionnaire de Trévoux montre que les jésuites au XVIIIe siècle, qui ne sont pas morts, loin de là, ils ont une relation très complexe à l'encyclopédie, à l'entreprise encyclopédique au sens du mot, et que le dictionnaire de Trévoux est beaucoup plus longtemps une sorte de rival qu'un ennemi de l'encyclopédie. Les jésuites, d'abord un certain nombre de jésuites travaillent dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, soit activement, soit passivement. Les récits de mission qui sont très largement utilisés par les encyclopédistes. Mais en plus, le dictionnaire de Trévoux est vraiment une entreprise rivale, effectivement, mais rivale avec l'encyclopédie. C'est-à-dire c'est un projet qui s'inscrit dans les Lumières, comme on les appelle. Et puis, progressivement, après 1750, quelque chose d'une hostilité des jésuites à l'encyclopédie. Quelque chose se durcit après 1750. Mais c'est une histoire extrêmement. Il y a quelques années, un très brillant jeune historien qui s'appelait Sébastien Brodeur-Giraud a fait une thèse qui n'a jamais été publiée, hélas, que j'avais suivie à l'école des hautes études, sur cette question de l'encyclopédie et vraiment de la place que tenait le dictionnaire de Trévoux. Tout contre l'encyclopédie, Donc ça, mais ça, Bernard Ours en rend très bien compte. Sur le second, c'est une question magnifique, en particulier parce que, et on en parlait avec Dominique avant la séance, tout est quelque chose qui est absolument passionnant. La manière dont le pèlerinage se convertit en mission, dans l'ambition du pèlerinage, et comment est-ce que missionner, c'est pèleriner par un autre, par d'autres voyages, peut s'étudier de très très près. Et tout cela porte véritablement réussi, si je peux dire, et puis pas réussi, abouti, et puis son second voyage impossible, et qui finalement, dans ce moment absolument décisif de 1537, vraiment, où quelque chose d'autre s'engage, fils de Rome, pour un projet missionnaire, mais au fond, l'héritage du pèlerinage en Terre Sainte est complètement tout à la fois transformé et porté. Et comme me le rappelait tout à l'heure, le fait qu'Ignace s'appelle dicte à la fin de sa vie et qu'il alors même qu'il a renoncé on dit très long sur ce qui est resté cet horizon de Jérusalem, mais dans une autre, désormais dans une autre terre qui n'est pas l'exploration de la terre jusqu'aux limites du monde connu, comme l'exploration de la terre dans sa totalité finie.
Nous sommes presque à 21h30. C'est à moi, en première ligne, de vous remercier de votre assistance et de remercier à Pierre-Antoine et nos deux intervenants pour une soirée très, très stimulante. Le Père Salin me rappelle une vulgarité que je n'avais pas oubliée. On peut acheter le livre grâce à notre... Et peut-être il y aura des corbeilles à l'extérieur pour aider avec les frais de la soirée. C'est vraiment difficile de parler d'un dictionnaire et j'ai été très admiratif de la stratégie de Denis Pelletier. Il a trouvé une approche juste et adaptée qui probablement exigeait beaucoup de travail statistique. Merci beaucoup. Mais on fait... Tout le monde veut se plaindre quand il lit un dictionnaire. Qu'est-ce qui n'est pas là? Pour moi, j'ai réfléchi, c'est comme dans les constitutions de la Compagnie de Jésus, il n'y a presque rien sur la chasteté ou le célibat. Pour moi, pour la pratique pastorale de la Compagnie de Jésus aujourd'hui et dans la crise de recrutement, il me semble que tout cela est capital dans une église où tout le monde veut trouver Dieu en toutes choses. Il y a quelque chose de la consacration en célibat pour la mission qui me semble centrale au charisme. Mais ça, c'est mon obsession. Je serais très content qu'il y ait ce livre parce qu'il n'y a rien comparable en français. Et c'est une ressource absolument capitale pour l'enseignement. Et je ne prendrai pas tant de temps en mettant des choses anglais en allemand, pour les rendre disponibles en français. Et j'imagine que beaucoup d'entre nous aurons nos raisons personnelles pour remercier beaucoup à Pierre-Antoine de tout le travail qu'il a investi pour que ce livre finalement voie le jour.
Merci.